Bonjour à tous, bienvenue pour ce culte du 3 janvier 2021. Nous avons maintenant une tradition à l'oratoire. Nous avons demandé à Gilles Castelnau, qui a été pasteur notamment à La Rencontre, où Agnès est aujourd'hui pour prêcher, donc que Béatrice et les conseillers sont là, mais Agnès est de tout cœur avec nous. Donc nous accueillons Gilles Castelnau. Je ne sais pas où il est passé, il se cache. Peut-être qu'il va falloir applaudir pour le faire rentrer. Ah, il est là-haut. Donc nous accueillons Gilles Castelnau. Merci Gilles. L'année dernière, vous nous aviez dit de recommencer. Donc nous recommençons. Nous vous avons ce matin avec nous. Merci à tous d'être si nombreux. Et vraiment à tous encore, bonne année. Et vous verrez, ça sera une année pleine de Ménouka. À tout à l'heure.
Nous entrons dans la joie du culte. Les cantiques spontanées sont dans le petit recueil mauve qui est au début du psautier français. Frères et sœurs, notre Dieu, le puissant, l'origine, l'accomplissement de toutes choses, nous accueille pour que notre vie soit paisible et que notre cœur soit épanoui. Levez-vous et chantons à l'Éternel. Certains ont une vie de lumière et d'autres tâtonnent dans les ténèbres. Dieu est présent dans la lumière. Il est présent dans les ténèbres. Il marche avec nous sur notre chemin. Il nous accompagne. Il nous réoriente. Il nous soutient. Et les anges du ciel volent autour de nous. N'ayons pas peur. Soyons courageux. Soyons heureux. Et je vous invite à chanter le psaume 16, les deux premières strophes, dans le psautier français. Seyoum. Écoutons la volonté de Dieu. Si vous êtes fragile, puisez en vous la force de Dieu. Si vous êtes mécontent, puisez en vous la paix de Dieu. Si vous êtes indécis et troublé, puisez en vous la sagesse de Dieu. Si vous êtes triste, puisez en vous le sourire de Dieu, car la présence de Dieu monte en nous et parmi nous, et elle assainit nos vies. Amen. Et nous chantons. Inclinons-nous dans la prière. Ô notre Dieu, si nous ne croyons pas, si nous n'agissons pas, les ténèbres nous envahiront et tout ce que nous aurons espéré, tout ce que tu auras voulu pour nous, perdra toute existence. Mais si nous croyons, si nous agissons, les ténèbres, bien sûr, nous envahiront, mais la lumière y brillera et nous verrons ton nouveau ciel, ta nouvelle terre, et tu feras par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons par Jésus-Christ. Amen. Écoutons l'annonce de la grâce. Si nous nous sentons faibles, rappelons-nous que Dieu nous a toujours donné la force du lendemain. Si nous nous sentons angoissés, rappelons-nous que Dieu nous a toujours donné la paix du lendemain. Si nous sommes dans l'épreuve, rappelons-nous que Dieu nous a toujours gardés dans l'épreuve. Et si la route nous est cachée, rappelons-nous que Dieu nous a toujours tracé à temps la route du lendemain. Chantons-lui notre reconnaissance. et nous confessons la foi chrétienne. Nous croyons en Dieu, puissance de vie, d'amour et d'être, élan créateur qui traverse tout l'univers. Nous croyons en Jésus-Christ, qui a révélé cette présence de Dieu auprès de tous les hommes, sa compassion, sa puissance de vie, d'amour et d'être. Il a lutté pour l'amour, pour la justice, jusqu'à y perdre la vie. Nous croyons que nous pouvons, nous aussi, être animés par l'Esprit créateur, peuple marchant d'un même pas, vivant pleinement, aimant de tout notre cœur, engagé dans la vie de l'humanité et uni à l'élan créateur qui traverse tout l'univers. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité.
Voilà, nous allons pouvoir entendre le passage biblique choisi par Gilles aujourd'hui au premier livre des Rois, au chapitre 8, les versets 54 à 57. Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il se leva de devant l'autel de l'Éternel, où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. Debout, il bénit à haute voix toute l'assemblée d'Israël, en disant « Béni soit l'Éternel, qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous, comme il a été avec nos pères, qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse pas. » Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, les versets 22 à 33. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent : c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt : rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit : Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit : viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria : Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dirent : tu es véritablement le Fils de Dieu.
Je vous invite à chanter le cantique 308 dans le petit recueil bleu Louange et prière. 308, les strophes 1, 2 et 3. Viens, ô Dieu, inspire-nous. Toi, dont le feu embrasait les anciens prophètes, toi, source de notre vie et de notre amour, couvre-nous de ta présence. Viens nous donner ton esprit, ouvre nos esprits et apaise-les lorsqu'ils sont enfiévrés ou fatigués. Et si ton souffle pénètre notre âme, nous serons unis à toi et nous dirons avec les anges les merveilles de ton amour. Sur l'esplanade du temple, le roi Salomon rassemble tout le peuple. C'est la dédicace du temple. L'auteur du Livre des Rois nous la raconte à sa manière, de la manière dont, selon lui, cela n'a pas pu manquer de se passer. Et il nous dit, Salomon, commencez par étendre les mains vers le ciel, vers Dieu, en ce début d'une nouvelle ère qui s'ouvrait avec ce temple tout nouveau qui permettait une nouvelle manière de vivre avec Dieu. Et comme nous sommes au début de l'année, j'ai pensé, nous aussi d'une certaine manière, nous entrons dans une nouvelle période, l'année 2021, qui sera ce qu'elle sera. Salomon lève les mains vers Dieu et le bénit, d'abord. Puis, il se tourne vers le peuple et il bénit le peuple. Je ne sais pas ce que vous auriez pensé qu'il aurait pu dire au peuple en ce premier jour de cette nouvelle ère. Peut-être que vous diriez, il aurait dit au peuple, vous aurez la santé, je vous fais des vœux, avant tout, la santé. Nous aurions ajouté, puis, que Dieu nous débarrasse de ce coronavirus tout de même. Je pense que les Anglais diraient que Dieu nous permette de vivre un Brexit supportable. Nous pourrions dire aussi que Dieu nous libère de toutes ces guerres en Afghanistan, au Sahel, encore 2 soldats abattus. Que Dieu nous libère du racisme, de l'antisémitisme, des paroles méchantes, insupportables, que nous entendons, que nous disons même parfois. Eh bien, Salomon, dit l'auteur du livre des Rois, n'a rien dit de semblable au peuple de son époque. Il n'a dit qu'une chose. Béni soit Dieu qui vous a donné le repos, la menoucha. Peut-être que vous diriez, avant de penser que Dieu nous donne ce qu'il nous faut pour vivre, nous pourrions, nous, prendre des décisions de ce que nous, nous devons faire pour que cela plaise à Dieu. Nous aurons une vie plus saine. On fera quand même un peu plus de sport, on arrêtera de fumer. On aura un esprit plus positif. On ne dira plus de paroles négatives. On sera plus ouvert, on sera plus accueillant. On lira sa Bible plus régulièrement. On ira au temple plus souvent. On comblera le déficit de la paroisse sur le plan financier. On s'engagera un peu plus dans du bénévolat. Et bien, c'est exactement tout cela que Salomon n'a pas demandé au peuple. Il ne lui a rien demandé. Il lui a seulement dit « Béni soit l'Éternel qui nous a donné la menoucha ». Il l'a donné, on l'a. Avec cela, pense Salomon, eh bien, on peut vivre cette période qui s'ouvre devant nous. La menoucha, c'est quand on n'a pas peur pour tout ce que nous avons à faire, à être. C'est quand on n'est pas angoissé, c'est quand on a un esprit calme et assuré, courageux, fort. On sait qu'avec toutes les forces maléfiques que nous aurons à combattre dans le temps qui vient, qui s'ouvre devant nous, nous avons tout ce qu'il nous faut grâce à Dieu pour vivre comme des enfants de Dieu. Ce n'est pas une espérance hypothétique, comme si l'on disait « j'espère que ça ira bien ». Salomon dit « on l'a eu, on l'a, la menoucha est dans nos cœurs, le repos ». L'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, a repris cette idée. Il a dit « celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de toutes ses œuvres comme Dieu des siennes ». Ça me fait plutôt penser au Shabbat. Il y a deux autres mots que menoucha. Il y a Shabbat. Le Shabbat, c'est quand on ne fait rien. Dieu a fait le monde en six jours, et le septième jour, il n'a rien fait. C'est le Shabbat. Le Shabbat, on ne fait rien. C'est le vrai repos. On ne doit même pas marcher vite dans la rue, il faut marcher lentement. Mais la menoucha, ça n'est pas ne rien faire. La menoucha, c'est faire tout ce qu'on a à faire. Du dimanche au vendredi, nous le dirions du lundi au samedi. Tout ce qui est devant nous dans notre vie, le faire avec calme, dans un esprit reposé. Ça, c'est la menoucha, ce n'est pas le Shabbat. Il y a un autre mot, vous savez, les Juifs aiment se saluer en disant shalom, shalom. Le shalom, alors c'est l'avenir. Le shalom, c'est ce qu'on espère, qui va nous être donné par Dieu, par le roi, s'il est un bon roi. Le shalom, c'est quand tout le monde, tout le peuple, chacun sera sous sa vigne, sous son figuier, et boira l'eau de sa propre citerne. Alors, c'est le shalom. Comme disait quelqu'un, c'est pas demain la veille. Mais la menoucha, ce n'est pas demain, ce n'est pas plus tard, ce n'est pas s'il plaît à Dieu. C'est, nous l'avons eu, c'est déjà passé. La menoucha, c'est, nous pouvons affronter tout ce qui est là devant nous et qui ne saurait manquer de nous inquiéter, d'exiger de notre part du courage, des forces. En aurons-nous assez? Le pourrons-nous? Dans une ambiance d'angoisse, un esprit en repos. Sans crainte, affrontons ce que nous avons à affronter, puisqu'on a l'amenoura, on ne craint rien. Alors, quand on est suroccupé, on peut tout de même, dans tout ce qu'on a à faire, avoir un esprit conscient, organisé, avec un peu de recul, et faire tout cela paisiblement, courageusement. Les petits chefs de bureau qui nous empoisonnent la vie, les adolescents, impossible. S'il y a des adolescents ici, ils doivent penser à leurs parents, ils ne comprennent jamais rien. Cela n'empêche pas d'affronter ces réalités avec un esprit de menoucha, de calme, de courage, de confiance. Toutes ces forces obscures qui nous tirent vers le bas, qui nous inquiètent, dont on se dit « Mon Dieu, pourvu que… » Salomon ne dit pas « Mon Dieu, pourvu que… » Il ne parle pas du shalom qu'on aura un jour. Il ne parle pas du Shabbat qui fait qu'on ne fait rien. J'ai entendu hier une jeune fille qui disait à sa copine « Moi, j'ai été à la Martinique, le sable blanc, les cocotiers, j'ai eu une semaine paisible. » Alors c'est exactement ça que n'est pas la menoucha. Ça, c'est le Shabbat. Saint Paul avait dit dans l'Épître aux Éphésiens, ce n'est pas de Saint Paul, c'est d'un de ses disciples, mais c'est son esprit. Celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. Salomon ne disait pas la gloire, il disait la bénédiction. Bon, c'est pareil. Alors, l'évangéliste Marc, à Rome, a trouvé que ce que disait saint Paul ou ses disciples, c'était un peu abstrait, c'était un peu théologique, cette puissance qui agit en nous, on se demande si on comprend vraiment ce que c'est. Et Marc a élaboré un petit récit à la manière juive. Vous savez, c'est machal, c'est un petit récit didactique qui fait qu'on comprend mieux. Et il a dit que Jésus affrontait la vie en marchant sur la mer. Alors les juifs, ils comprenaient tout de suite ce que ça voulait dire. Et Matthieu, qui a copié l'évangile de Marc, l'a repris, ce machal, et il a même rajouté le passage où Pierre marche lui aussi sur l'eau. Il faut comprendre que les Juifs, à leur époque, n'étaient pas des navigateurs. Ils n'étaient pas comme les Phéniciens ou les Grecs qui naviguaient aux quatre coins de la Méditerranée. Les Juifs, ils avaient peur de la mer. C'était comme ça, ils ne naviguaient pas, ils n'avaient pas de bateau, ils avaient peut-être des barques sur la mer de Galilée, mais même ce lac de Galilée, ils disaient, c'est la mer où il y a des tempêtes très inquiétantes. Ils ne craignaient pas seulement les tempêtes, qu'ils craignaient bien sûr, ils craignaient aussi les monstres, dont tout le monde sait très bien qu'ils sont dans la mer. Et ils ne craignaient pas seulement les monstres, mais il craignait la mer elle-même qui, lorsqu'on voit la puissance de ces vagues qu'on a vues récemment avec la tempête, ces vagues impressionnantes, n'ont-elles pas quelque chose de surnaturel? Quelque chose qu'on ne comprend pas vraiment. Il n'y avait qu'un mot pour désigner la mer et pour désigner la divinité de la mer. Il disait... Yam. Yam, c'est le dieu mortel. D'ailleurs, les Cananéens disaient ils luttent avec Baal. Yam, ce dieu inquiétant qui est là. Les Romains, eux, quand ils parlaient du dieu de la mer, ils disaient Neptune. Et Neptune, c'était bien au contraire. Un royaume de paix, un royaume, vous savez, où les esclaves servent leur maître et où les maris écoutent leurs femmes. Tout l'incroyable. Il l'avait fêté justement au moment du solstice d'hiver. Yam, ça n'était pas Neptune. Yam, c'était vraiment une puissance inquiétante. Et Marc n'a rien trouvé de mieux, et Matthieu a trouvé que c'était très bien, que de dire « Jésus, lui, il marchait sur Yam, ses monstres, sa puissance maléfique, ses vagues, ses tempêtes. » Salomon dit « Ça n'est pas étonnant, puisqu'on a la menoucha, on peut marcher sur Yam, toutes ces puissances inquiétantes, Yam qui résume tout ce qui nous affronte, nous empêche de vivre. » Je vous cite un passage, il y en a pas mal dans l'Ancien Testament, le psaume 89. « Éternel, toi, tu domptes l'orgueil de Yam quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. Tu as écrasé le monstre Rab. » Alors la Bible seconde dit, ça c'est l'Égypte. Dieu a écrasé l'Égypte avec le Pharaon. Oui, oui. Mais Rahab, c'est aussi le monstre qui est là-dessous. Celui que personne n'a jamais vraiment vu, mais dont on sent bien qu'il est là et qu'il nous empêche de vivre pleinement. Je vous cite le psaume 107. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a arrêté la tempête, il a ramené le calme et les vagues se sont apaisées. Je vous cite le psaume 74. Éternel, tu as fendu la mer par ta puissance. Alors, la version seconde dit, il a fendu la mer. C'est Moïse, vous savez, qui fendait la mer pour qu'on puisse passer au travers. Mais le mot hébreu n'est pas fendre, c'est fracasser, c'est briser. Éternel, tu as fracassé Yam par ta puissance. Tu as brisé les têtes des monstres dans les eaux, tu as écrasé la tête du Léviathan. On traduit Léviathan en disant que c'était un crocodile, mais c'était bien plus qu'un crocodile. C'était ces bêtes qu'on ne voit jamais, mais qui sont là et qui nous effrayent. Dans le récit du chapitre 1 de la Genèse, le récit de la création, le texte dédramatise et dit les monstres, ils sont dans la mer, ça c'est sûr, c'est indiscutable. Mais ils ne sont pas hostiles, c'est Dieu qui les a faits. Et c'est Dieu qui a mis les monstres dans la mer. Déjà, on a moins peur. Alors Pierre, voyant que le vent était fort, a néanmoins marché vers Jésus sur la mer. Quel exemple, quel modèle de fidèle. Salomon aurait dit, en voilà un qui sait ce que c'est que la menoucha, qui nous permet l'impossible. Et puis, ce que je vous dis n'est pas si simple, c'est que finalement, on peut quand même avoir peur. Et Pierre a eu peur. Quand il s'est rendu compte qu'il marchait sur Yam, il s'est dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et il a commencé à enfoncer. Et il a eu cette phrase, Seigneur, sauve-moi. Ça, frères et sœurs, c'est exactement ce qu'il ne faut pas dire. Il ne faut pas dire « sauve-moi », puisqu'on a la menoucha. D'ailleurs, Jésus le reprend tout de suite. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Frères et sœurs, pourquoi doutons-nous lorsque nous sommes en train d'affronter les forces dont je parlais tout à l'heure, qui nous tirent vers le bas? Pourquoi parfois nous disons-nous, c'est impossible, Seigneur, sauve-nous? Vous n'avez pas à le dire. Salomon a dit, vous avez la menoucha, alors n'ayez pas peur, allez-y, carrément, sans crainte, avec l'Éternel, vous n'avez pas peur. Un chrétien n'est pas pessimiste. Un chrétien ne dit pas « tout va mal ». Un chrétien ne dit pas « quand on voit ce qu'on voit et qu'on sait ce qu'on sait, on a raison de penser ce qu'on pense ». Un chrétien n'est pas optimiste non plus. L'optimiste, c'est celui qui dit « j'attends le shalom ». J'attends que chacun ait sa vigne, son figuier, et boive l'eau de sa propre citerne. Attendez, il faut créer ce monde-là avec l'aide de notre roi, mais c'est toujours, évidemment, dans l'avenir. Ce que dit Salomon, c'est pas de Shabbat. C'est pas nécessaire pour être apaisé de partir à la Martinique sur le sable blanc et sous les cocotiers. Ça n'est pas nécessaire non plus d'espérer le shalom. Une chose, vous avez la menoucha alors, allez-y. L'attitude qui fait que dans la solitude, dans le découragement qu'on peut avoir, bien sûr, quand on a l'impression qu'on pourrait bien couler, lorsqu'on oublie la promesse rassurante de Dieu, lorsque nous sommes tentés de courir vers une chasse au miracle, il faudrait que Dieu fasse ceci et encore cela, alors que nous avons seulement à marcher sur l'eau dans un esprit apaisé. Chacun d'entre nous doit imaginer son propre récit. Nous ne disons pas, nous, qu'on marche sur l'eau. Ce sont des mythes, ce sont des symboles qui ne sont plus les nôtres aujourd'hui. Nous en avons d'autres. Je ne résiste pas au plaisir de vous citer un petit récit, un petit machal fait par mon ami le pasteur Roger Parmentier, c'était il y a bien longtemps, dans les années 70. Pensez-vous, il y a 50 ans, il était pasteur à Montreuil. À l'époque, ce n'était pas une ville heureuse et bourgeoise comme maintenant, c'était la ville de la misère et du communisme, craignant le fascisme, menaçant. C'était la lutte que menaient les communistes, et Roger Parmentier était là, pasteur de ces gens-là, et il a écrit l'histoire de Jésus marchant sur l'eau de la façon suivante que je vous lis. Il a dit, si ça n'est pas dans votre mentalité, dans votre esprit, écrivez vous-même votre propre texte. Aussi longtemps que vous n'avez pas écrit vous-même ce passage sur la mer, vous n'avez pas vraiment compris ce que c'est. Alors il a écrit. Ce jour-là, vers la fin de l'après-midi, il leur dit, allons dans les beaux quartiers de l'Ouest. Matthieu disait, passons de l'autre côté de la mer. Allons dans les beaux quartiers de l'Ouest, comme on les appelle, les banlieues résidentielles. Il n'en pouvait plus de fatigue et dans le métro, ses compagnons protègent son sommeil. Dans la dernière partie du trajet, monte une bande de néo-fascistes très excités, revenant d'une expédition. Sans tarder, ils agressent les camarades, rapidement submergés. Les coups succédant aux accusations méprisantes et aux injures. Et lui, le bras replié, continue à dormir. Ses compagnons le réveillent et s'écrient « Camarade, ne vois-tu pas qu'il nous enfonce ?» Réveillé, il fait front et en quelques paroles, il impose un grand calme. Les adversaires sont sidérés, mais il dit à ceux de son équipe, « Pourquoi avez-vous si peur ? N'avez-vous pas encore cette foi fondée sur la grande réalisation en marche ? Profondément impressionnés, ils murmurent entre eux : ce frère a un secret en lui. Frères et sœurs, ne dites jamais « Seigneur, sauve-moi !» parce que Jésus répondrait « homme de peu de foi ». En grec, on dit une « oligo-foi », comme les oligo-éléments qui sont si petits, qui existent pourtant. Pierre avait une « oligo-foi ». « N'ayez pas une oligo-foi, disait Jésus, ne dites pas « sauve-moi !» Puisez simplement la menoucha qui est en vous. Alors, je vous cite encore les Éphésiens, dont Marc disait « c'est compliqué ». Que Dieu vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour et que vous puissiez connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance et vous serez remplis de toute la plénitude de Dieu. Frères et sœurs, sur l'océan de la vie, Jésus a dit à ses disciples « Passons sur l'autre bord, si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, si ton cœur est en peine, n'aie pas peur, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu périrais, il a seulement dit « passons sur l'autre bord ». Amen. Je vous invite à chanter le cantique 265 dans le recueil Louanges et prières. 265, les trois strophes. Levez-vous et chantons.
Le sacristain.
Voilà, ça y est.
C'est bon. Merci Gérard. Merci Béatrice. Mais j'avais la ménorah, hein, j'étais calme. Merci infiniment Gilles pour cet envoi dans l'année 2021. Je pense que le message a été très clair pour tous. Après, on va essayer, mais on compte sur nous, c'est intérieur. Merci au cœur d'être là. Le 3 janvier, normalement, le cœur n'est pas là. C'est le premier repas de l'année, ici. Alors, pas de repas cette année, mais nous avons demandé au cœur de venir nous réchauffer le cœur. Et il est venu. Et je propose une très bonne résolution pour 2021, c'est de vous inscrire dès aujourd'hui aux répétitions du cœur. Voilà, c'est important. Ça fait vraiment partie de l'oratoire, le cœur de l'oratoire. N'ayez pas peur de Fabien. Je sais que les auditions sont impressionnantes, que j'ai entendu dire. Ils cherchent notamment des grosses voix, des hommes. Donc vraiment, pensez à eux. Je voulais également vous dire un grand merci pour 2020, parce qu'on n'a pas attendu Dieu, on a demandé simplement et vous avez donné. Et nous avons donné. Nous avons atteint un chiffre que je pense, j'en discutais avec Juliette, notre trésorière, je crois que l'oratoire ne l'a jamais atteint. En termes de dons, en tout cas au moins depuis 10 ans, nous avons atteint la somme de 255 000 euros. Un immense merci pour les générations qui vont venir, parce qu'on a frôlé la catastrophe. Et vraiment, on va clôturer les comptes, on voit le commissaire aux comptes mercredi. Mais vraiment, un immense, immense merci à vous tous, aux anciens et habitués qui ont remis la main à la poche, qui ont rajouté tout ce qu'ils pouvaient rajouter. Vraiment un grand merci. Et également à tous les nouveaux, puisque vous avez été 556 à nous soutenir nommément cette année. C'est également un nombre de donateurs que nous n'avons jamais eu. Je m'adresse aussi à la caméra parce que beaucoup, beaucoup de gens d'autres paroisses, de provinces, de l'étranger nous ont aidés. Et si nous comptons aussi les donateurs pendant les cérémonies, nous avons presque atteint 600 donateurs, ce qui vraiment... De nos jours, vous avez lu la presse chez nos amis, nous avons eu 25% de donateurs en plus et en montant, 30% en montant. Alors ça ne compensera pas, bien entendu, toutes les pertes relatives, notamment au monde du spectacle, à qui nous prêtons, contre participation aux frais, ce temple, mais vraiment un immense merci, parce que ça signifie aussi que la parole libérale est soutenue, que vous soutenez votre Église, et il faut qu'on apprenne ensemble à faire corps. Vraiment, vraiment à faire corps, parce qu'on ne finance pas une Église avec de l'extérieur, on finance son Église avec son cœur et ses paroissiens. Je pense que c'est important qu'on le fasse tous ensemble, et vous l'avez fait, vous avez répondu à cet appel, et vraiment un grand merci. Voilà, pour terminer 2020. Et 2021, eh ben, la menorah, moi je pensais que c'était Menouka, parce que je pensais à Baraka. J'ai appris en recherchant Baraka que, d'ailleurs, c'était un terme qui avait été introduit en français pour des raisons militaires. Et comme Gilles l'a expliqué, nous avons deux de nos militaires qui n'ont pas eu la Baraka, et même d'autres récemment. Donc la menorah, également aujourd'hui l'entraide, premier dimanche du mois, donc pas de repas de paroisse, mais toujours une offrande pour l'entraide que nous avons peu soutenue en 2020. Nous n'avons pas eu la vente. Nous allons essayer de nous rattraper en 2021 sur la base de projets. Le panier digital n'est pas encore là, mais va arriver. On compte aussi, là pour le coup, sur l'Église unie de bien vouloir nous en fournir un pour le compte de l'entraide. Voilà, donc pour l'entraide aujourd'hui, également en ligne, merci de penser à tous ceux qui sont en réelle difficulté. Il va y en avoir de plus en plus, la crise est devant nous, et beaucoup de gens sont en grande précarité, pas que spirituelle, également financière et matérielle. Merci à vous et encore à nouveau, bonne année. J'ai oublié quelque chose, Béatrice? Ah si, la pause spirituelle jeudi avec Agnès reprend.
Et je voulais particulièrement m'adresser à ceux qui nous regardent en ligne aujourd'hui et qui sont peut-être au Royaume-Uni. Je voulais dire que cette année est historique, évidemment. Nous allons vivre une séparation en Europe, ce qui n'est pas un bon signe de mon point de vue. Et je voulais adresser tous nos vœux pour cette nouvelle année et notre amitié à tous les amis qui sont au Royaume-Uni.
C'est le moment de l'offrande. Souvenez-vous, Dieu aime celui qui donne avec joie. unissons-nous dans la prière d'intercession. Notre Dieu, nous évoquons devant toi tous ceux qui sont sans défense en face des souffrances du monde et qui ne savent pas prendre leur cause en main, tous ceux qui vivent dans l'obscurité, dans la crainte de catastrophes, dans l'injustice, dans la guerre, dans la pauvreté ou le mépris, et qui ne perçoivent rien de ta présence active et de la paix que tu donnes. Tous ceux qui sont abandonnés, solitaires, qui vivent sans l'aide de leurs prochains, tous ceux qui ont perdu l'assurance de ta vérité, qui sont dans le trouble et l'incertitude au sujet de la place privilégiée de notre foi et dont la capacité d'amour fraternel et la force de sacrifice s'éteignent. Nous comptons sur ton esprit créateur pour qu'il monte en nous et nous donne l'intelligence, l'imagination et le dynamisme créateur nécessaire pour améliorer ce monde que tu as tant aimé. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, recevez l'exhortation et la bénédiction de la part de Dieu. Faites tout le bien que vous pouvez, par tous les moyens que vous pouvez, de toutes les manières que vous pouvez, en tous les lieux que vous pouvez, en tous les temps que vous pouvez, auprès de tous les gens que vous pouvez, et aussi longtemps que vous pourrez. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Thank you.